Bonjour. Et je suis très content d'être là, pas parmi vous, mais devant la caméra quand même, content de pouvoir vous apporter ce message, la prochaine prédication dans notre série sur la vie de Jacob. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien, je suis l'un des deux pasteurs assistants dans cette église avec Ben. Et nous allons nous plonger dans ce récit que Myriam vient de lire pour nous. Vous vous dites peut-être, OK, à quoi ça sert la naissance de tous ces enfants? Mais c'est vraiment une histoire passionnante et j'espère que ça va être un encouragement et une mise au défi pour vous. Mais nous avons besoin de l'aide du Seigneur avant de commencer. Donc prions ensemble. Merci Seigneur pour ce passage, merci pour ta parole qui est remplie d'histoires colorées et passionnantes et intrigantes et que tu puisses nous aider ce matin à saisir ce que tu veux nous dire à travers ce passage. Que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs. Oui, en effet, que nos cœurs soient comme des sols, un sol fertile pour recevoir ta parole. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Et si je vous dis qu'une sorte de bombe, métaphorique bien sûr, risque d'exploser dans nos églises, c'est quoi cette bombe? C'est peut-être un enseignement hérétique, peut-être un scandale moral, peut-être la persécution. Toutes ces choses peuvent faire des dégâts terribles dans une église, mais ce n'est pas ça dans ce passage. Aujourd'hui, je parle d'une bombe plus sournoise, la jalousie et son cousin, la rivalité. Là où les gens se rassemblent, la bombe de la jalousie et de la rivalité risque d'exploser, que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos familles et oui, même dans nos églises. Nous avons entendu des histoires d'églises brisées, divisées par ces choses. Tu t'es déjà demandé pourquoi il y a tant de dénominations protestantes dans le monde, parfois pour des bonnes raisons, mais souvent pas pour des bonnes raisons du tout, loin de là. Parfois on a envie de mettre la tête dans les mains. Qu'est-ce que le monde non chrétien doit penser du christianisme? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'Église mondiale? Et peut-être que tu as toi-même été blessé par une rivalité. Dans tous les cas, nous devons faire face à ce danger. Personne, y compris notre Église, n'est à l'abri de ce danger, de cette bombe. Et notre passage nous pousse à nous poser deux questions ce matin. Comment éviter à ce que la bombe explose? Et qu'est-ce qu'on devrait faire si la bombe explose? La réponse à la première question est ceci. Repentons-nous des rivalités destructrices. Repentons-nous des rivalités destructrices. J'ai deux cousins, deux frères, qui ont toujours eu une rivalité plutôt amicale, mais surtout dans le domaine du football. Ils suivent deux équipes, deux des plus grands clubs d'Angleterre, Everton et Tottenham. Et il y a 4 jours, ces deux équipes se sont affrontées dans la Coupe d'Angleterre. Et c'était un match incroyable. Après seulement 3 minutes, je vais vous montrer le score ici. Après seulement 3 minutes, Tottenham prend le dessus et c'est 1-0. Puis c'est 3 buts dans 7 minutes pour Everton et c'est 3-1. Mais Tottenham arrive à remonter dans le jeu avec 2 buts et c'est 3-3. Everton est accordé un penalty et tout d'un coup, c'est 4-3. Mais Tottenham ne sont pas prêts à lâcher et 7 minutes avant la fin, c'est 4-4. Le jeu entre dans le temps additionnel et au final, c'est Everton qui marque le but, le dernier but et le score final 4-5. Quel match! Cela aurait dû apporter de l'eau au moulin de la rivalité entre mes deux cousins. Imaginez s'il s'agit de deux équipes rivales comme Liverpool et Manchester United ou en Belgique, Anderlecht et le Standard Liège. Dans le sport, c'est chouette, un peu de rivalité, un peu de compétition. Mais si ce n'est pas dans le domaine du sport et si ce n'est pas amical, dans notre passage, nous sommes face à une rivalité qui risque de tout détruire. Nous avons déjà vu la rivalité entre Jacob et son frère Ésaü, qui a brisé la famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de deux frères, mais de deux sœurs. Et dans le passage précédent, Jacob est arrivé chez son oncle Laban et il est tombé amoureux de sa fille cadette Rachel. Mais le jour du mariage, après 7 ans de service, le jour du mariage, Laban trompe Jacob et Jacob se retrouve marié avec la fille aînée, Léa. Et il se marie quand même avec Rachel en échange pour 7 ans de service supplémentaire. Et cette histoire ne condamne pas explicitement la polygamie, mais la Bible nous montre que Dieu a créé l'homme pour le mariage, pour être entre un seul homme et une seule femme. Et en effet, ce passage, ce récit n'est pas une bonne publicité pour la polygamie. Et en effet, le passage précédent se termine avec ces mots inquiétants. Jacob alla aussi avec Rachel, qu'il aimait plus que Léa. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, pas trop tard, les maris, d'aller acheter un bouquet de fleurs pour vos femmes. Mais je n'aurais pas voulu être présent le jour de Saint-Valentin chez Jacob. J'imagine que l'atmosphère était très tendue. Et dans notre passage, une circonstance spécifique va faire exploser la bombe. C'est quoi? Les bébés. Dans l'espace de seulement 29 versets, 12 bébés naissent, 11 fils et une fille. Et il y aura un 13e par la suite aussi. Ma femme Fiona est enceinte en ce moment. Dans quelques semaines, notre 2e fils naîtra. Il reste plus que 11, ma chérie. En fait, l'un de mes grands-pères avait 12 frères et sœurs. Incroyable, ça. Mais la quantité de bébés n'est pas le problème ici. Regardez le verset 31 avec moi. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. On a déjà là le problème numéro 1. Jacob aime Rachel plus que Léa. En fait, le mot pour pas aimer est plutôt haï. Vient s'ajouter à cela le problème numéro 2. Léa peut avoir des enfants sans difficulté, mais Rachel. Je ne peux pas procéder sans dire un mot sur l'infertilité. Ce passage nous montre à quel point l'infertilité est l'un des problèmes les plus douloureux de la vie. Et si c'est quelque chose qui vous concerne, sachez que Dieu a une compassion particulière pour vous. La Bible en témoigne à maintes reprises. Et venez nous en parler, nous serions heureux de vous soutenir dans ce défi. Il faut aussi dire que ce passage n'est pas un indice que l'infertilité est une punition de la part de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis à ce que Rachel soit stérile. Et même si c'était pour lui apprendre quelque chose, c'était un cas bien spécifique. Et notons aussi que Rachel ressentait la honte, chapitre 30, verset 23, parce que la culture de cette époque mettait beaucoup de pression sur les femmes d'avoir des enfants. Et de plus, elle était consciente qu'elle faisait partie du peuple, elle était censée avoir des enfants pour faire grandir le peuple de Dieu. Mais le passage ne suggère pas que sa honte était appropriée. Et nous pouvons affirmer que être féconde ou stérile n'a rien à voir avec notre valeur humaine, ni avec une vie vécue à la gloire de Dieu. Pourtant, nous comprenons la douleur de Rachel, tout comme nous comprenons la douleur d'une femme qui n'est pas aimée. C'est la manière dont elles réagissent qui est problématique. Léa ne réagit pas bien au fait que Jacob aime Rachel, et Rachel ne réagit pas bien au fait que Léa peut avoir des enfants. Et le passage entier est présenté comme une compétition entre les deux sœurs. Une compétition pour gagner l'affection de leur mari. Une compétition pour avoir la plus grande quantité de bébés. C'est comme le match de foot entre Everton et Tottenham. Une lutte constante pour gagner l'avantage sur l'adversaire. Standard Léa contre réel Rachel. Et après chaque but marqué, on voit leur réaction à travers, exprimée à travers les noms choisis pour leur fils. Alors c'est Léa qui marque le premier but. Léa 1, Rachel 0. Il y a une lueur de reconnaissance dans sa réaction. Ruben veut dire « regarder un fils », car elle reconnaît que Dieu a vu son affliction et lui a fait un don. Mais pour elle, le vrai don serait l'amour de son mari, car elle espère, plutôt en vain je pense, que maintenant mon mari m'aimera. C'est comme un footballeur qui, pour qui marquer un but n'a de la valeur qui, ainsi il gagne l'approbation de son coach. Léa a marqué contre Rachel, mais la douleur de son mariage reste. Peu de temps après, c'est Rachel, Léa 2, Rachel 0. De nouveau, une lueur de reconnaissance. Siméon veut dire « entendu » car elle reconnaît que Dieu a entendu que je ne t'ai pas aimé. Mais l'accent tombe de nouveau sur son mécontentement avec son mariage. Puis c'est Léa 3, Rachel 0. Mais Lévi veut dire « attaché » car elle espère en vain que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Elle domine le match, mais la douleur reste. Et bientôt, c'est Léa 4, Rachel 0. Et cette fois-ci, sa réaction est un peu plus encourageante. Judas veut dire célébrer et fait référence au fait que je célébrerai le Seigneur. Et puis, elle cessa alors d'avoir des enfants. Pourquoi? Je ne pense pas qu'elle est devenue stérile parce que par la suite, elle va avoir encore 3 enfants. Plus tard, en fait, on apprend que, je pense, Jacob a simplement eu marre de coucher avec elle. C'est triste, hein? Et les enfants ne valent rien à Léa si elle ne gagne pas l'amour de son mari. Par contre, pour Rachel, l'amour de son mari vaut rien si elle ne peut pas avoir des enfants. Regardez sa réaction dans chapitre 30, verset 1. Elle fut jalouse de sa sœur. Voilà notre mot. Elle fut jalouse. Elle aurait pu se confier en Dieu. Elle aurait pu remercier Dieu pour l'amour de son mari. Elle aurait pu au moins prier pour un enfant. Peut-être qu'elle l'a fait, mais ce passage n'indique pas qu'elle l'a fait. Mais non, plutôt, elle se fâche contre sa sœur. Elle fait une demande insensée à Jacob. « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » La réponse de Jacob n'est pas exemplaire non plus. Il aurait pu consoler sa femme, il aurait pu prier pour elle, comme son père Isaac a fait pour Rebecca. Il reconnaît quand même la souveraineté de Dieu. « Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Mais Rachel n'a aucune intention d'accepter la souveraineté de Dieu. Elle conçoit un plan ingénieux. « Allez Jacob, tu peux coucher avec ma servante Bila et avoir un enfant pour moi par l'intermédiaire de Bila. » La pratique était courante à cette époque, mais la Bible ne porte pas un regard favorable à cette pratique. Sarah, la femme d'Abraham, avait conçu le même plan. Au lieu de patienter pour l'enfant promis par Dieu, Abraham et Sarah ont dû un fils, Ismaël, par sa servante Agar. C'est pas fini bien. La famille était brisée par cela. Et Jacob, lui, il a déjà 4 fils légitimes, mais quand même, il se laisse influencer par la jalousie de Rachel et il couche avec Bila. Et bientôt donc, c'est Léa 4, Rachel 1, même si pour moi, c'est plutôt un but hors jeu. Mais sa réaction n'est pas encourageante. Dan veut dire juger. Mais si elle pense que Dieu est comme un avocat qui défend son droit devant sa sœur, elle a certainement tort. Apparemment, elle a convaincu Jacob de suivre cette démarche un peu douteuse une deuxième fois. Et bientôt, c'est Léa 4, Rachel 2. Naphtali veut dire combat, car elle pense avoir remporté littéralement un combat divin. Mais si elle pense que Dieu lutte pour elle, pour lui aider à régler les comptes avec sa sœur, c'est insensé. Léa, elle, ne supporte pas que Rachel prenne le dessus sur elle. Quoi que Rachel puisse faire, Léa peut le faire mieux. Allez, Jacob, tu peux coucher avec ma servante, Zilpa. Et Jacob ne résiste pas et il couche avec une quatrième femme. Et bientôt, c'est Léa 5, Rachel 2. Et Gad veut dire chance. Est-ce qu'elle remercie Dieu ou est-ce qu'elle est plutôt contente d'avoir regagné l'avantage sur sa sœur? Et pour être quitte envers Rachel, Zilpa doit mettre au monde un deuxième fils, et bientôt c'est Léa 6, Rachel 2. Azé veut dire bonheur. Est-ce qu'elle remercie Dieu ou est-ce qu'elle est plutôt contente de s'être vengée contre sa sœur? L'histoire prend maintenant un tournant un peu ridicule. Le fils aîné de Léa, Ruben, trouve des mandragores dans les champs. Et Rachel demande à Léa, « Donne-moi, je te prie, quelques-unes des mandragores. » Est-ce qu'elle les veut pour faire un bon plat de légumes? Je pense pas. À cette époque-là, les mandragores étaient censés augmenter la fertilité. Je pense que Rachel espérait toujours avoir un enfant elle-même. Mais Léa ne va pas capituler si facilement et sa colère et son amertume explosent. Ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? La réponse de Rachel est révélatrice. Eh bien, qui couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils? C'est clair que la pauvre Léa n'a aucun accès à son mari. Et Rachel est si désespérée qu'elle doit marchander, elle doit prêter son mari. Que c'est triste que Léa a dû payer pour coucher avec son mari. Et au final, Rachel ne réussit qu'à marquer un but contre son camp. Vraisemblablement, les mandragores n'ont pas marché, mais Léa, elle, tombe enceinte et met au monde Issachar, et c'est Léa 7, Rachel 2. Issachar veut dire salarié, mais si elle pense que Dieu lui doit en récompense pour ses actions, elle a tort. Léa réussit apparemment à coucher une deuxième fois avec Jacob et met au monde Zabulon. Léa 8, Rachel 2. Zabulon veut dire honorable, car elle espère toujours que son mari l'honorera. 8 fils, mais elle est inconsolable sans l'amour de son mari. Et si ce n'était pas suffisant, elle met au monde une fille, Dina. Léa 9, Rachel 2. Mais cette histoire réserve encore une surprise. Après tout ce temps, Rachel tombe enceinte et met au monde Joseph. Léa 9, Rachel 3. Sa réaction révèle une certaine reconnaissance, je pense. Dieu a enlevé mon déshonneur, mais elle se focalise quand même sur son honneur à elle. Et Joseph veut dire ajouter, car elle prie que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Sa prière sera exaucée dans le chapitre 35 avec la naissance de Benjamin, le dernier fils. Le score final, Léa 9, Rachel 4. Mais qui a vraiment gagné? Léa n'a jamais reçu l'amour de son mari. Et Rachel, elle mourra en accouchant de son fils Benjamin. Qu'est-ce que cette triste histoire nous apprend? Si la famille de Jacob était déjà brisée, c'est maintenant la galère. Nous voyons à quel point la rivalité et la jalousie, accompagnées aussi avec l'amertume, les disputes, la convoitise, le favoritisme, la colère, peuvent détruire une famille. Et cette famille est celle choisie par Dieu pour être son peuple béni, pour être une lumière pour les nations. Malheureusement, la manière dont la nation d'Israël a commencé donne le ton pour la suite. Tout au long de son histoire, Israël est marqué par la jalousie et les rivalités. Mais Israël illustre le même problème qui est présent chez nous tous. J'ai lu un article qui disait que la jalousie est comme un loup. Elle ne chasse jamais toute seule. Comme nous voyons dans notre passage, elle attaque toujours nos cœurs avec l'aide de l'orgueil, la convoitise, l'idolâtrie, la colère, l'amertume, le mécontentement, l'ingratitude, etc. Si tu vois l'un de ces autres loups dans ton cœur, la meute est probablement proche. Si tu es frustré parce que d'autres personnes ont plus de prestige que toi, la meute est proche. Si tu rêves d'être marié avec l'époux de quelqu'un d'autre, la meute est proche. Si tu es souvent grincheux et te plains beaucoup, la meute est proche. Si tu es irrité parce que les gens ne font pas comme tu veux, la meute est proche. Avant qu'on ne le sache, la bombe de la rivalité et de la jalousie va exploser. Nous devons nous repentir immédiatement. Cette bombe peut même exploser dans une église. On pense à l'église de Corinthe dans le Nouveau Testament. Elle peut être fatale pour une église et mine notre témoignage au monde. Ça se voit peut-être dans une lutte pour imposer sa façon de faire. J'ai entendu parler d'une femme qui a quitté son église parce qu'elle ne pouvait pas diriger le groupe de musique avec l'instrument dont elle jouait. Mais nous devons apprendre à vivre avec ceux qui font des choses différemment. Il s'agit peut-être d'une dispute concernant les préférences personnelles, comme le style de la musique ou la couleur du tapis. Mais nous devons être prêts à laisser de côté nos préférences personnelles pour le bien de l'Église. C'est peut-être une lutte pour avoir une position de prestige ou de pouvoir dans l'Église. Mais nous devrions chercher à servir avec humilité, même si nos efforts ne sont pas très visibles ou reconnus. C'est peut-être parce qu'on fait trop grand cas d'un débat théologique secondaire ou tertiaire. Aux États-Unis, il existe une église pour toute position théologique. L'église protestante, baptiste, prémillénariste, pré-tribulationniste, etc., etc. Ce n'est pas pour critiquer ces positions, mais pour dire qu'on devrait se réunir autour de l'essentiel, autour de l'Évangile. C'est peut-être une division à cause de tensions de culture ou de caractère, mais nous devons célébrer notre diversité et apprendre à être sensibles envers nos différences. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais exprimer un avis ou un souci. Bien sûr, il y a des moments où il faut signaler que quelque chose ne va pas, mais tout débat doit se passer dans un esprit de respect, d'amour, de fraternité, d'unité, de respect. Parce que si on se laisse entraîner par la jalousie et la rivalité, tôt ou tard, la bombe va exploser. Je connais une jeune femme, on l'appellera Karine, qui était témoin d'une dispute destructrice dans son église. C'était un désaccord théologique, mais je pense qu'il y avait aussi des caractères difficiles impliqués. L'église a explosé. Elle est partie blessé et désillusionné par l'Église et même par la foi chrétienne. Et c'était seulement après quelques années qu'elle a osé rejoindre une Église. Cela nous amène à notre deuxième question, plus courte. Qu'est-ce qu'on devrait faire si la bombe explose? Qu'est-ce qu'on devrait faire si la bombe explose? Et la réponse de ce passage est celle-ci. Confions-nous dans le Dieu qui construit son peuple. Confions-nous dans le Dieu qui construit son peuple. Jusqu'à là, nous nous sommes concentrés sur les deux sœurs, mais il y a des indices que Dieu est bel et bien à l'œuvre et souverain sur leur situation. Chapitre 29, verset 31, « C'est lui qui rend Léa féconde, mais choisit apparemment de laisser Rachel stérile. » Chapitre 30, verset 17, « C'est lui qui entend les prières de Léa et lui accorde encore un fils. » Et verset 22, c'est lui qui souvient au final de Rachel et lui rend féconde, non pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce que dans sa sagesse, il choisit ce moment pour agir. Non seulement sa souveraineté, mais aussi on voit sa compassion envers ceux qui souffrent, surtout pour les rejetés et les démunis. Les sœurs sont loin d'être exemplaires dans ce passage, mais Dieu se soucie d'elles. Il rend Léa féconde parce qu'il voit qu'elle n'est pas aimée. Il veut la consoler. Quand nous lisons qu'il se souvient de Rachel, c'est une expression qui implique qu'il va agir en sa faveur. On ne sait pas pourquoi il a choisi d'attendre si longtemps, mais ce n'était pas par manque de compassion. En fait, depuis le chapitre 12 de la Genèse, Dieu a à maintes reprises démontré sa souveraineté et sa compassion envers les descendants d'Abraham. Malgré les circonstances difficiles, malgré le péché humain, Dieu a veillé à ce que ses promesses ne tombent pas à l'eau. Il utilise même les circonstances difficiles et le mal humain pour réaliser ses projets. Comme Joseph dit à ses frères dans Genèse 50, verset 20, « Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien. » Et c'est bien le cas ici, hein? Un mariage désastreux, l'infertilité, une rivalité destructrice, et pourtant Dieu le tourne en bien. Parce que qui sont ces douze fils? Nul autre que les douze tribus d'Israël. Nous sommes témoins ici de la naissance de la nation d'Israël. Dieu a promis un grand peuple. Et jusqu'à là, il y a un seul homme dans chaque génération, Abraham, Isaac, Jacob. Mais tout d'un coup, en même temps que la jalousie explose, le peuple explose. Incroyable! Dieu tourne ce bazar en bénédiction. Et cela donne le ton pour toute l'Ancien Testament. Malgré les circonstances difficiles, malgré le péché d'Israël, Dieu continue à faire grâce envers son peuple, surtout envers les rejetés et les démunis. On pense à Ruth ou à Anne ou à David. Il continue à réaliser ses promesses. Il continue à faire grandir son peuple. Même quand le peuple est envoyé en exil en Babylone et le peuple est réduit à un petit reste, le peuple aurait pu lire ce passage pour leur rappeler que Dieu peut se servir du mal pour faire grandir son peuple. Et puis, contre tout espoir, le Messie arrive et commence à former un nouveau peuple, non pas à partir de 12 tribus, mais à partir de 12 disciples. Mais c'est de nouveau la jalousie et la rivalité qui surgissent chez les chefs religieux, et ils crucifient Jésus. Est-ce que c'est la fin? Non, au contraire, encore une fois, dans sa souveraineté et sa compassion, Dieu se sert de la jalousie humaine pour accomplir ses projets, parce que c'est à la croix que Jésus paye le prix pour les péchés de tous ceux qui l'acceptent, et non seulement pour les descendants biologiques d'Abraham, mais pour des gens de toute nation. Et par sa résurrection, Jésus devient le premier-né d'entre les morts, le frère aîné d'un grand peuple qui dépasse de loin les 12 tribus d'Israël. 50 jours plus tard, lors de la Pentecôte, le nouveau peuple de Dieu explose de nouveau. 3000 gens de plusieurs nations sauvés dans un seul jour. Et maintenant, tous ceux qui détournent de leur péché et placent leur confiance dans la mort de Jésus sont nés de nouveau, sont des enfants dans la famille de Dieu, des frères et sœurs dans un grand peuple qui dépasse les 12 tribus d'Israël. Ce peuple n'est plus biologique, mais spirituel. Le Nouveau Testament a quand même une haute estime pour la famille biologique, mais un enfant né dans une famille chrétienne n'appartient pas automatiquement au peuple de Dieu, bien qu'on les accueille avec joie dans nos églises, bien sûr. Ce n'était pas comme dans l'Ancien Testament. Maintenant, nos enfants sont plutôt un champ de mission. Au début, en tout cas, nous devons les appeler à la repentance et à la foi personnelle en Jésus pour le salut. La tâche des parents a été intégrée, en quelque sorte, dans la mission plus grande de faire des enfants de Dieu de toutes les nations. Et cette mission, la mission d'annoncer la bonne nouvelle, que ce soit à nos enfants ou aux nations, continue depuis presque 2000 ans. Il y a eu des revers, comme la première persécution qui a chassé l'Église de Jérusalem, mais Dieu a continué à œuvrer à travers les circonstances pour faire grandir son peuple, comme les chrétiens chassés de Jérusalem ont répandu l'Évangile partout. Et il y a eu des rivalités au sein de l'Église, comme les prédicateurs dans Philippiens qui prêchaient l'Évangile par jalousie. Mais Dieu peut s'en servir pour faire grandir son peuple. Qu'importe, l'apôtre Paul réagit aux prédicateurs jaloux. De toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Si le bazar de la famille de Jacob ne peut pas empêcher les projets de Dieu, rien ne peut empêcher ces projets. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que les rivalités et la jalousie sont une bonne chose. Ce serait de faire le bien pour que la grâce foisonne, une démarche qui est interdite dans le Nouveau Testament. Ces choses peuvent réellement détruire une église et sont fortement condamnées dans le Nouveau Testament. Mais, sur le plan global, le péché humain ne pourra pas empêcher la croissance du peuple de Dieu. Que donc faire si la bombe explose et une église est détruite par la rivalité et la jalousie? Qu'en est-il de l'église de mon amie Karine? Alors, l'église commence à se reconstruire avec un nouveau pasteur. Mon amie Karine grandit dans sa foi, dans sa nouvelle église. Mais à part ça, les fruits sont minimes pour le moment. Mais ce passage nous appelle à la foi, à nous confier dans le Dieu souverain et compatissant. Je ne sais pas comment, mais il tournera le bazar en bénédiction. Si donc tu es mécontent dans ta vie, si les choses ne vont pas comme tu veux, si quelqu'un te maltraite ou tu n'es pas reconnu par les autres, ne laisse pas les loups de la jalousie et de la rivalité attaquer ton cœur et ne laisse pas la bombe exploser, surtout pas dans l'église. Sache pourtant que Dieu a une compassion particulière pour vous dans vos épreuves, pour les rejetés et les démunis. Il est souverain sur tes épreuves. Et si jamais, que Dieu nous en garde, une bombe explose dans notre église, que nous puissions nous confier dans le Dieu qui est souverain et compatissant. Il tient ses promesses, il est à l'œuvre et il construira son peuple. Prions. Seigneur, nous confessons la jalousie et la rivalité qui est présente dans tous nos cœurs avec ces autres péchés comme l'amertume, la colère, la convoitise, etc. Aide-nous à faire attention et à nous repentir de ces choses et surtout à ne pas laisser ces choses exploser dans nos familles et dans nos églises. Et si ces choses explosent, Seigneur, et lorsque nous voyons ces choses dans ton Église mondiale, que nous puissions avoir confiance dans ta souveraineté et de ta compassion qui veille à ce que tes projets continuent. Seigneur, oui, fais grandir, construis ton peuple pour ta gloire. Et on prie au nom de Jésus. Amen.